Bonjour, bienvenue sur Radio Alma. Nous sommes la classe de 5e Anne et voici notre gazette. Peut-on encore sauver notre planète? Un collectif international de scientifiques nous prévient qu'à ce rythme, dans 2 ans, notre budget carbone sera épuisé. On vous explique.
Des scientifiques de 17 pays se sont réunis et ont publié une étude sur l'état du réchauffement climatique. Il en ressort que, si nous ne diminuons pas notre production de CO2, dans 2 ans, nous aurons utilisé tout notre budget carbone. Le budget carbone représente la quantité de CO2 que nos sociétés peuvent émettre sans dépasser une hausse de 1,5 degré Celsius de la température mondiale. Par exemple, cela reviendrait à passer d'une température moyenne de 25 degrés à 26,5 degrés Celsius, une augmentation qui serait catastrophique. En 2015, lors de la COP21, une réunion annuelle entre experts de différents pays, un accord a été signé pour réduire notre empreinte carbone, c'est-à-dire le CO2 que nous produisons avec notre mode de vie. Le budget carbone restant avait été estimé à 580 milliards de tonnes. Mais depuis 10 ans, les émissions mondiales de CO2 continuent d'augmenter. Actuellement, il ne reste plus que 80 milliards de tonnes dans ce budget. Et avec nos modes de vie actuels, il sera épuisé dans moins de 2 ans. Ce qui rendrait l'objectif de limiter la hausse à 1,5 degré Celsius impossible à atteindre. Même si selon les scientifiques, cet objectif semble quasi impossible, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Nous pouvons encore viser une hausse limitée à 1,7 degrés, voire 2 degrés Celsius. Cela ne serait pas sans conséquences. Augmentation des vagues de chaleur, des inondations, des feux de forêt, etc. Les scientifiques rappellent que chaque dixième de degré compte pour limiter les catastrophes naturelles.
Une partie du monde qui s'appelle le Moyen-Orient fait souvent la une dans les journaux. Les tensions qui y règnent sont en effet très nombreuses. On va vous expliquer pourquoi.
Le Moyen-Orient est situé entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie et est bordé par plusieurs mers qui sont des routes commerciales capitales. Plusieurs raisons expliquent les vives tensions qui y règnent. Premièrement, ces pays sont jeunes, même si des populations y vivent depuis longtemps. Leurs frontières sont issues de la colonisation et n'ont pas statifié certaines populations. Ensuite, de nombreux États ont un intérêt commercial, étant donné les ressources pétrolières de certains pays et essayent d'établir des relations privilégiées. Enfin, le conflit israélo-palestinien prend de l'ampleur, impliquant d'autres pays et de groupes armés. La forte implication des États-Unis s'explique par l'intérêt pour les ressources pétrolières et aussi par la présence d'une importante communauté juive aux USA. La paix est-elle possible? Si les Israéliens et les Palestiniens trouvaient un accord pour vivre sur le même territoire, alors les tensions dans la région pourraient diminuer.
Le soda est-il très sucré? Selon les spécialistes, les Belges n'ont toujours pas une alimentation saine. L'association Équilibre fait tout son possible pour que les élèves aient des repas équilibrés.
Selon les scientifiques, les Belges n'ont toujours pas une alimentation saine. Un animateur de l'ASBL Équilibre, Mathieu Quignet, montre donc différents aliments à des élèves de 5e et 6e primaire. Il leur demande de les classer par ordre de croissant en fonction de la quantité de sucre qu'ils contiennent. Avant l'exercice, il veut sensibiliser les jeunes en leur expliquant la pyramide alimentaire. Juste après, les enfants donnent leur avis pour le classement des aliments. À la fin de l'exercice, Mathieu informe les élèves des bonnes réponses par rapport à la quantité de sucre dans chaque produit. Il dispose de morceaux de sucre à côté des aliments concernés. La quantité de sucre la plus élevée est dans le ketchup, 18 morceaux, et la moins élevée est dans l'eau, 0.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous accueillons Jessica de Sadeler qui va nous parler de son métier. Imaginez-vous qu'elle est luthière.
Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre métier?
Alors, mon métier de luthier consiste à fabriquer des violons, des altos, des violoncelles, à faire des entretiens, des petites restaurations et des réglages de son avec les musiciens.
Êtes-vous spécialisé dans un instrument?
Oui, je suis spécialisé dans la fabrication des violons, des altos et des violoncelles. En fait, c'est 3 instruments différents. Mais en même temps, c'est la même famille, donc on appelle ça le quatuor à cordes.
Pour fabriquer un instrument, combien de temps faut-il?
Alors ça dépend beaucoup des périodes de l'année. Si on parle en nombre d'heures, il faut compter environ 300 heures de travail. Alors pour vous, c'est peut-être un peu difficile d'imaginer ce que ça représente 300 heures de travail, mais ce serait, si je faisais que ça tous les jours du matin au soir, ce serait un mois et demi de travail.
Quelles sont les étapes pour façonner un instrument ?
Alors, comme c'est beaucoup d'heures de travail, il y a beaucoup d'étapes. Mais je vais résumer. La toute première étape, c'est de choisir du bois. Et donc, on choisit le bois, on part d'une planche, d'une grosse planche, qu'on va préparer, et puis dans laquelle on va couper le contour de l'instrument. Une fois qu'on a le contour, on va sculpter l'extérieur, ce qu'on appelle la voûte, qui est la partie bombée. Quand la partie bombée est terminée, alors on va creuser l'intérieur, et puis on colle toutes les parties ensemble. Évidemment, il y a également le manche, la touche à sculpter dans le bois. Et quand toutes les parties sont collées ensemble, ensuite on vernit l'instrument pour protéger le bois de l'humidité, des changements de température. Et en toute fin, on va mettre les cordes et mettre le chevalet. Et à l'intérieur, il y a un petit bout d'épicéa qui fait le lien entre les deux tables, la table et le fond. Et on appelle ça l'âme du violon. Et ça, c'est la fin. Et après, la toute fin, c'est le musicien qui va jouer l'instrument.
Comment choisissez-vous l'essence avec laquelle vous allez travailler ?
Je travaille avec de l'épicéa. L'épicéa, c'est un peu le sapin de Noël. Sauf que c'est de l'épicéa qu'on choisit dans les montagnes parce qu'il doit pousser très lentement et très régulièrement. Et en montagne, comme il fait plus froid, l'arbre va pousser plus lentement. Et pour les autres parties, les côtés qu'on appelle les éclisses et le fond, ainsi que le manche, je choisis de l'érable. Et là, c'est aussi en général de l'érable qui pousse en montagne pour la même raison de régularité de croissance, c'est que on choisit des arbres qui ont poussé bien droit.
Avec quels outils travaillez-vous ?
Alors j'en ai tout plein des outils. J'ai malheureusement pas pu prendre mon atelier ici parce que c'est trop d'outils à transporter, mais je vous en ai ramené un. Et c'est le plus petit de toute ma collection, c'est un petit rabot qui ressemble à un petit sabot. Mais j'utilise aussi des scies, des gouges, des ciseaux à bois. Les gouges, ce sont des ciseaux à bois courbes. Des limes, ça peut-être que vous en voyez dans le garage de votre maison quand papa ou maman doivent faire des bricolages. Qu'est-ce que j'utilise ? Une foreuse, une perceuse avec des forêts. Pour faire des petits trous, de temps en temps, il faut quand même percer des trous dans le bois pour pouvoir faire certaines étapes. Des racloirs et encore plein de petits outils. Mais il y en a beaucoup.
Faut-il avoir des connaissances musicales pour votre profession ?
Alors, c'est quand même mieux d'avoir un peu de connaissances musicales. Parce que comme je travaille avec des musiciens, il faut que je puisse comprendre ce que désirent les musiciens. J'ai joué un petit peu de violon moi-même, j'ai joué d'autres instruments aussi, du piano, de la flûte. Je sais ce que c'est la musique. Maintenant, je ne suis pas musicienne professionnelle. Et mon travail, c'est vraiment d'aider les musiciens par leur instrument.
Est-ce vrai que c'est un métier assez physique ?
Alors, c'est assez physique. Il y a des jours où il faut dégrossir le bois. Et ça, ce sont les journées les plus sportives. Il y a d'autres jours où je peux passer des heures à gratter des petites parties où c'est tout doux, tout lent et ça nécessite beaucoup de patience. Et ces jours-là, c'est un peu moins physique. Mais les jours où il faut dégrossir les grosses planches de bois, là, c'est très, très physique.
Faut-il de la patience ?
Alors, effectivement, c'est un métier qui nécessite beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail entre le début et la fin. Et puis, le travail du bois se fait principalement à la main. Toutes les étapes sont réalisées à la main et ça prend du temps.
Si je veux devenir luthier ou luthière, que dois-je faire ?
Alors, c'est la question que moi j'ai posée quand j'étais adolescente aux professionnels. Ils m'ont dit, tu commences par aller dans une école. Il y avait à ce moment-là une école en Italie qui était très réputée. Et donc, je suis partie en Italie dans cette école de luthier.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Eh bien, parce que j'aimais beaucoup la musique. Je jouais beaucoup de musique. Et j'avais en même temps envie de réaliser quelque chose avec mes mains. De faire du bricolage, de faire des créations artistiques. Et pour moi, ça a été un métier qui alliait ces passions. Et en plus de ça, j'ai découvert que ça me permettait de faire des séances. Parce que la lutherie, ça permet de faire de l'acoustique, de la chimie, de la biologie. Parce qu'il faut quand même apprendre un peu comment fonctionnent les essences des arbres. Et tout ça, ça allie toutes mes passions.
Merci infiniment, Jessica, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite de passer un bel été et on se retrouve à la rentrée sur Radio Alma.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles gazettes. Vous pouvez nous réécouter sur le www.radioalma.com. gazette.eu/gazette.